L'opération commencera dans 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1.
Zabzalap. L'émission de Pierre de Sang.
Je suppose que vous vous demandez ce que vous faites ici.
Je ne veux pas conclure un quelconque marché. J'ai démissionné. Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient. Quelle farce.
Pourquoi ne pas nous mettre chacun dans une cellule jusqu'à ce que nous ayons avoué vous en finiriez une bonne fois pour toutes ?
Musical ou thématique, rendez-vous tous les lundis à 19h
sur Radio Campus 106.6.
La société qui est bien foutue. Elle met des uniformes aux connards pour qu'on puisse les reconnaître.
C'est ça.
Bonsoir. Zabzalap cherche ce soir à comprendre un peu mieux ce qui se déroule en Espagne depuis le 15 mai. Occupation de place, comité de quartier, blocage de parlement, etc., etc. Il sera donc question de ce mouvement appelé le 15M, comme 15 mai, avec des interviews de camarades de Séville et de Barcelone. Allez, bonne écoute.
Hola Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bien. On voulait savoir ce qui se passait un peu autour des occupations de place en Espagne.
¿Qué pasa? Bueno, pues lo que pasa ahora mismo es la ocupación de las plazas.
Ce qui se passe en ce moment avec le mouvement d'occupation de place en Espagne. J'imagine que vous voulez savoir un peu comment ça a commencé, comment a commencé le mouvement. Je peux l'expliquer brièvement. À travers Facebook, un groupe qui s'appelle Democracia Realia est apparu avec une plateforme de revendication similaire à ce que pouvait être celle d'attaque il y a une dizaine d'années, lorsqu'il y avait un mouvement de mobilisation et qu'attaque était assez fort. C'était basé sur l'idée d'un meilleur contrôle des entités financières et des banques. Et en plus, la Democracia Realia réclame une réforme électorale et plus de contrôle des politiques. C'est une liste de revendications complètement démocrate. Ils se sont organisés par Internet, ils le font très bien, et ils ont appelé à travers tout le pays à quantité de rassemblements pour le 15 mai. C'était une semaine avant les élections municipales et les élections de quelques communautés autonomes, communautés régionales. Alors, c'est eu un grand succès. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans une centaine de villes. À Madrid, il y avait 20 000 personnes, par exemple, et à Séville, d'où je viens, 3 000. En comparaison, juste une semaine avant, il y avait eu une semaine de lutte sociale organisée par les assemblées de quartier, par la plateforme de soutien aux migrants, et il y avait eu entre 50 et 100 personnes. Donc le grand succès du 15 mai, c'est ce qu'on conclut avec les gens que je connais, qu'ils aient participé ou non au mouvement, vient du fait que les mécanismes habituels pour convoquer les gens au rassemblement, à travers les partis, les syndicats, dont on ne fait pas partie, à travers le réseau associatif, les comités de quartier, les gens des squats, à Séville, parce qu'à Barcelone, c'est un peu un chapitre à part. Ces capacités de convocation d'appel au rassemblement sont très limitées. L'appel au rassemblement était anonyme à la base. Personne ne savait ce qu'était Democracia Realia. Et c'était une semaine avant les élections, alors les gens en avaient marre des politiques, ils blablataient depuis 2 mois. Il y avait une sensation générale d'écœurement. Et c'est ça qui a fait triompher le 15 mai. Par la situation de crise même, il y a plein de gens qui se retrouvent jetés à la rue, sans boulot, sans logement, parce que les banques saisissent les maisons. C'est donc facile dans un tel moment de diriger la colère contre les banques, parce qu'elles jouent vraiment le rôle des méchants aujourd'hui. Donc ça a eu un succès terrible. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que, bien que ce soit ces revendications-là, avec lesquelles la majorité des gens qui militent dans des groupes anarchistes ou communistes anti-autoritaires, les gens des collectifs ou des squats, ne soient pas du tout d'accord avec ces revendications, les gens qui participaient, et aussi ceux qui ont décidé de ne pas participer vu ces revendications, ont vu que c'était un bon moment pour intervenir. Et c'est à partir surtout de la manif de Madrid, qui s'était terminée par une violente charge des flics, de longues émeutes et une vingtaine d'arrestations, plein de blessés, que s'est provoquée l'occupation de la Plaza del Sol. Et vu que tout ce mouvement se coordonne beaucoup à travers Twitter et des trucs de ce genre, rapidement, instantanément, il y a eu la même réaction dans les autres villes. C'est un avantage de ces formes d'organisation, ça a des défauts, mais en ça, ça peut aider. Les gens à Séville, à Barcelone, à Valencia, je ne sais pas où, savaient exactement ce qui se passait au moment même où ça se passait à Madrid. Tout le monde s'est coordonné un peu comme ça, spontanément, et les places ont été occupées. La première nuit à Madrid, qui était la plus forte, il y a eu une tentative d'évacuation, mais comme c'était une semaine avant les élections, finalement, le ministère de l'Intérieur ou le délégué du gouvernement a décidé de ne pas utiliser davantage la force et ils ont dit aux flics d'arrêter. Ils auraient pu commettre une bavure et le PSOE, qui est au gouvernement, n'a pas voulu avoir mauvaise presse et perdre encore plus de voix de gauche. Sûrement que le PP n'aurait pas eu tant de scrupules, ils auraient tout foutu en l'air et voilà. Et dans ce jeu, tout le monde en a profité pour occuper les places. Parce que le seul endroit où il y avait vraiment une tension forte, c'était à Madrid. Et une fois que les instructions venues d'en haut, de la délégation du gouvernement, ont été données, ils ont laissé les gens entrer sur la place et c'est ainsi qu'a été généré ce mouvement. Comment ça s'est développé? D'une ville à l'autre, ça tient pour beaucoup des capacités des camarades. Premièrement, ça dépend de la force qu'ont les camarades dans chaque ville et ensuite de la stratégie qu'ils ont développée. Parce qu'au départ, il s'agit d'un mouvement qui se définit d'une manière stupide comme apolitique, au point que dans la majorité des assemblées, on ne peut pas parler en termes politiques. De quoi parle-t-on alors? De quoi? Du fait que la démocratie va mal, qu'il faut l'améliorer, qu'on en a marre. Mais par exemple, la parole collective est niée, tu parles en tant qu'individu. Les gens ne peuvent pas se reconnaître comme anarchistes, féministes, et ça c'est quasiment sur toutes les places. Mais il y a quelques endroits où il a été possible de rompre avec ça, de faire comprendre que d'un côté, il y a la question d'appartenir à un parti, et d'un autre, que tu ne peux pas nier ton identité politique, que tu as des références, un passé, et que tu en as besoin pour t'expliquer. Cette paranoïa antipolitique vient aussi du fait que, pour la majorité des gens, c'est la première fois qu'ils participent à quelque chose. Et s'il y a quelque chose de bien, c'est le refus d'être manipulé par les partis ou les syndicats. Mais ça va jusqu'à la paranoïa. Au départ, c'est plutôt bien ce refus des politiques et des partis. Exactement, il y a un bon côté et un mauvais côté dans cette attitude qui se pose par avance à politique, mais qui stoppe les petits groupes d'extrême gauche ou même d'anarchistes qui tenteraient de contrôler l'Assemblée. Ça ne leur laisse aucune possibilité. Mais en même temps, vu comment ça se passe maintenant, ça rend difficile la construction d'un discours un peu plus fort parce que tout reste à un niveau très superficiel. Et c'est précisément ce non à l'idéologie qui empêche de comprendre les mécanismes et de prendre les choses à la racine. Alors on parle d'être mécontent, d'en avoir marre, de vouloir vivre sa vie, de ce que sont les banques, mais le discours n'est pas trop approfondi. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, le discours de la non-violence est imposé dans toutes les villes. Ce n'est pas une stratégie ou une tactique non-violente, mais la non-violence pour elle-même, comme une valeur et une posture inquestionnable de ce mouvement. Et ce n'est pas clair que s'il n'y a pas de violence à un moment, il n'y a pas de possibilité, et il n'y a rien d'autre qui soit posé à travers la stratégie de la non-violence face à l'agression de la police. Ça, dans quelques endroits, ça ne dérange pas trop les gens, parce que, comme à Séville, où je vis, parce que les gens là-bas sont très tranquilles, et la question de l'autodéfense ne se pose jamais, quasiment jamais, à l'inverse des cas de Barcelone ou de Madrid. Les camarades là-bas doivent faire un effort pour avaler ça, ce qui n'est pas peu de chose. Justement, à Barcelone, par rapport à la grève générale qu'il y a eu le 29 septembre, je trouve qu'il y a une petite régression, bien que ce soit à Barcelone que le 15 mai était le plus fort. Parce que les gens étaient parvenus à faire à travers la grève générale, à sortir du ghetto politique, de faire une mobilisation de milliers de personnes avec un discours plus incisif et une meilleure approche. Cependant, les compagnons de Barcelone pensent que c'est pas grave de faire un pas en arrière si ça permet de mobiliser plus de gens. Tu te réfères à la grève générale qui a eu le 29 septembre en Espagne?
Sí, la huelga general que hubo en España, que en general fue bastante un fracaso.
Oui, la grève générale qui a été plutôt un échec. C'était le dernier geste des syndicats qui a démontré qu'ils n'avaient plus les capacités de faire quoi que ce soit. Et dans quelques endroits, dans quelques villes, il y a eu des piquetés qui ont bien fonctionné. Mais ça n'a pas donné de perspective. Les gens ont eu la sensation d'une très grande défaite, sauf à Barcelone où la mobilisation, disons, autonome a été la plus suivie. Et c'est la première fois que dans une mobilisation autonome, il y a plus de gens qu'avec les syndicats. Ça s'est terminé par une bataille rangée dans le centre de Barcelone pendant 7 ou 8 heures, avec la participation de milliers de personnes, de jeunes, de vieux, de tout le monde. Une participation active ou passive, mais tout le monde a participé.
Eso era sobre septiembre. Sí. Y entonces, de retraso que...
Sí, entonces,
donc, pour revenir sur les places, il y a des endroits où les gens... Il y a des endroits où les gens disent qu'il y a une bonne évolution. Moi, je ne l'ai pas vu, mais peut-être que là, ça commence. Et à Barcelone, peut-être les gens se disent que stratégiquement, l'occupation de place était importante pour les milliers de personnes qui voyaient ça, que c'était quelque chose qui pouvait être une base, quelque chose qui pouvait rompre avec l'isolement. Et peut-être que c'est le plus important du 15 mai, cette rupture de l'isolement. Par exemple, les gens d'un même quartier, qui peut-être ne se connaissaient pas, se retrouvent à occuper une place ensemble. La fatigue et l'ennui menaçaient la stratégie d'occupation de place. Les gens ont vu qu'il fallait donner un autre tour aux choses, plus qu'idéologique, des propositions pour continuer à avancer, c'était d'aller dans les quartiers. C'est comme ça que le mouvement pouvait se radicaliser ou commencer à être approfondi, et à partir de là, élaborer une pratique plus quotidienne à travers laquelle tu peux construire un discours plus radical. Ce qui a commencé dans les quartiers a aussi été une stratégie pour que le groupe de Democracia Realia et la partie la plus démocrate de la mobilisation perdent le contrôle des grandes assemblées, de la grande assemblée, qui au départ était une assemblée, une place occupée dans chaque capitale régionale, et l'a tirée jusque dans les quartiers, commencer à fonctionner dans les quartiers. Donc ça a commencé avec des initiatives telles qu'empêcher les expulsions, ce qui était une manière d'amener une pratique au-delà des revendications qu'il y avait contre les banques. Les gens ont commencé alors des actions directes, non violentes, mais des actions directes, à créer une grande solidarité et à soutenir les voisins qu'ils connaissaient, qui devaient être expulsés, en bloquant l'accès aux flics, en allant à la banque, ou chez le juge qui avait donné l'ordonnance d'expulser, en ayant une présence massive, intimidante, pacifique mais intimidante. Cette pratique existait déjà avant, l'Assemblée de chômeurs avait déjà commencé à faire ça l'année dernière, mais là, avec le mouvement du 15 mai, le mouvement contre les expulsions se renforce. Et la pratique des assemblées de quartier, pour moi, semble être celle qui a le plus d'avenir. Et c'est celle qui peut le plus créer l'espoir de lutte le plus clair et le plus réel de conquête quotidienne efficace. C'est pas un programme futur, mais quelque chose de quotidien. Sur les expulsions, tu m'avais raconté qu'à Grenade, il y avait un grand nombre d'expulsions. À Grenade, je ne sais pas combien il y a d'habitants exactement, mais ça doit être environ 1 million, un peu moins d'un demi-million de personnes de plus dans la province. Et il y a eu 13 000 expulsions. L'assemblée de quartier, pour donner une idée, pour une ville comme Séville, qui est un peu similaire à Lille, il y a 12 assemblées de quartier. À Madrid, il y en a plus de 40. Et les assemblées de quartier varient beaucoup d'un quartier à l'autre. Certaines sont infiltrées par le PS ou la Gauche Unie. Mais la coordination des assemblées, qui peut être un peu réformiste, s'organise de manière assez autonome. Et dans les quartiers, par exemple, où il y a pas mal d'immigrés, c'est important que ça fonctionne comme ça. Par exemple, à Séville, dans un quartier pauvre, il y a une assemblée qui porte des revendications pour l'égalité des travailleurs immigrés et des autochtones. Et ça, c'est chouette, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi des groupes fascistes qui s'installent dans les quartiers ouvriers et dans certaines assemblées. Ensuite, le plus important qui survient en ce moment, c'était le dimanche, parce que ce dimanche, parce que les revendications étaient assez réformistes. Et la non-violence de l'occupation de la place au départ, bon, ça va, mais après un mois d'occupation, qu'est-ce qu'on fait là? Et la semaine dernière, il s'est passé des trucs un peu plus... Faut intervenir plus directement, avec force, sinon le mouvement se casse la gueule. Dans plusieurs villes, ce qui s'est fait, comme il y a une élection municipale et que le maire et le conseil municipal ont été investis, ça a été de se rassembler et de les huer. La majorité des gens considéraient que vous ne nous représentez pas. C'est comme une négation de la représentativité qui intervient pourtant en contradiction avec la défense du discours de la défense de la démocratie. Donc là, on peut voir que le groupe Democracia Real continue son discours, mais que la majorité des gens qui occupent les places leur tournent déjà le dos. Et la forme la plus incisive de ce mouvement, le point d'inflexion, pourrait être ce qui s'est passé à Barcelone mercredi 15 juin.
Que es el día que el Parlamento Regional Catalán va a aprobar una serie de recortes.
C'est le jour où le Parlement catalan a approuvé une série de coupes budgétaires pour les aides sociales, la santé. Bien évidemment, avec la crise, ils font des coupes dans le social. Et 3000 personnes ont cerné le Parlement dès la première heure. La police a chargé pour libérer l'entrée, mais plus tard, en milieu de journée, les députés ne pouvaient plus passer. La sortie était bloquée, ils ont dû faire sortir des politiques par hélicoptère, par fourgon anti-émeute, pendant que la police chargeait pour libérer le passage. Quelques politiques qui sont sortis par la porte n'ont pas été frappés, n'ont été peinturlurés, insultés ou sont fait cracher dessus. Le mouvement là est plus intense parce qu'une chose que disaient les compagnons autonomes aux gens qui les critiquaient, parce qu'il y a eu pas mal de critiques, c'est que l'important, ce n'est pas ce qui se disait, mais ce qui se faisait. Moi, je crois que ce qui se dit est très important et pas seulement ce qui se fait. Ce qui était bien, c'est que ça a permis de rompre avec l'absence de communication, c'est le premier pas, et de montrer ce refus, quel qu'il soit, même s'il n'est pas radical, la manière d'agir peut l'être. Ce n'est pas une négation symbolique, mais une négation réelle du pouvoir des politiques et du pouvoir de l'État.
À raison de ce qui se passe en Barcelone,
à partir de ce qui s'est passé à Barcelone, l'important, c'est aussi les médias de communication progressistes comme El Público, El País. Ces médias ont tout le temps aidé le mouvement d'occupation de place. Ce sont les médias de communication du gouvernement, du PSOE, et d'une certaine manière, ils l'encouragent et la cajolent parce que les revendications sont récupérables. Et comme on est dans une situation de crise, qui est comme celle que vit la Grèce, ils se disent « c'est un truc qui nous fait perdre des voix, mais on peut le contrôler ». Et pour la presse de droite, ils tolèrent ça. Ça leur plaît pas, mais comme c'est non-violent, démocrate, ils savent pas non plus par où l'attaquer. À travers ce qui s'est passé le 15 juin à Barcelone, toutes les cartes ont été découvertes et la presse progressiste casse désormais le mouvement. Justement, il se peut que la presse essaie de récupérer ou d'afficher la rupture, parce que maintenant, ils ne se contentent plus d'occuper une place, mais ils agissent de manière plus active. Exactement. Pour ça, tout le discours est important. Ce qui se dit et pas seulement ce qui se fait. Tout le discours de la presse maintenant cherche à dénigrer les gens qui veulent continuer à radicaliser le mouvement. Et au sujet de la non-violence, tu m'avais parlé de comment avait été perçu ce qui s'est passé en Tunisie. Ça a une influence très claire. Oui, on se dit, les gens se mobilisent dans un pays où la répression est brutale, et nous, Nous, on ne fait rien. La police et les banques nous niquent et on ne fait rien. Ce n'est pas ce que dit Democracia Realia, mais c'est ce que tout le monde avait à l'esprit. Cependant, dans l'imaginaire de ce mouvement, toute la partie autodéfense, de stratégie violente des insurrections populaires, a été totalement gommée. On ne parle pas des commissariats brûlés, ni des attaques de prison qui ont permis de libérer les prisonniers, comme ça s'est passé en Égypte, par exemple. Impressionnant. De plus, sur le campement, rien n'est dit au sujet de la prison. À Séville, un camarade a essayé d'amener le sujet et on lui a dit que ce n'était pas un sujet opportun. En Égypte, pendant la révolte, c'est un thème qui a été discuté et sur lequel des choses ont été faites. Tout ça s'est fait intentionnellement et les gens qui restent très patients, qui ne veulent pas rompre la communication établie, ont peur d'être une fois encore les radicaux qu'on ne veut pas écouter. Les gens proches qui sont dans le mouvement, qui sont clairement la majorité, des mouvements autonomes, ultra-gauche, anarchs, etc., ne veulent pas non plus poser les thèmes radicaux de peur d'être mis de côté. Donc là, on verra à quel point c'était opportun et comment on peut se défaire de ce discours démocrate. Mais quand il y a un communiqué de Democracia Realia, c'est un groupe qui s'occupe de faire les communiqués, ça se fait en assemblée, comment ça se passe?
No, Democracia Realia tiene su propia estructura, crea un movimiento que tiene tres meses.
Democracia Realia, sa propre structure, qui existe depuis 3 mois. C'est des gens du type d'attaque. Ils ont leur propre site web, un site absolument infâme avec des appels à la police et des trucs comme ça. Mais tous les gens qui participent au campement disent ça, c'est seulement une partie, c'est pas les chefs. C'est un peu eux qui ont commencé à prendre la tête du mouvement, mais se sont fait bouffer par le mouvement d'occupation de place. C'est pas mal qu'ils soient pas non plus complètement virés parce que ce sont eux qui ont les moyens de communication les plus efficaces que quiconque. Les moyens de communication se tournent en général vers Democracia Realia parce qu'ils sont légitimés par le fait que ce sont eux qui ont commencé et surtout, ils disent ce que les médias ont envie d'entendre. C'est une lutte pacifique, démocrate et tous les autres seraient des antisystèmes infiltrés.
El mundo apesta porque se pasa en una resta. Lo que puedo conseguir menos lo que me cuesta. Rentabilidad funesta, el beneficio que nos lleva al precipicio. Apenas hay resquicios para la vida. Esta ha sido reducida a tu oficio. Maleficio es lo que se produce de luce. ¿Quién conduce este carro sin luces? Te das de bruces con la economía de un mercado caducado, injusto, irresponsable y malcriado. Vernos obligados a vender nuestro tiempo en un trabajo asalariado es violencia. No me pidáis paciencia, que no machaco mi conciencia, pero tampoco dejo de ver a mi alrededor la decadencia. Vida no es supervivencia, te hablo de entreno, de desarrollo, de cualidades que nos cuadriculan la mente, las escuelas y facultades. Habrá vida antes de la muerte, todos pagando mensualidades, las facturas son la tortura más corriente en las ciudades. La del palo que en la punta lleva atada una zanahoria, esa es nuestra historia, caminando en círculos como una noria, siempre pensando en comprar algún nuevo objeto que nos deje definitivamente a gusto por completo, pero si buscas en el sitio equivocado, nunca encuentras nada. La felicidad no puede ser en paquetada, ni vendida, ni comprada, que con pasta se duerme más tranquilo, pero sin equilibrio no te servirá de nada. Pasa el tiempo, las semanas son iguales, la rutina es tan cansina que deja en coma nuestros proyectos personales. Se nos olvida lo que queremos y no nos cansamos, parecemos memos. Si se nos niega el timón, ¿por qué seguimos a los remos? Maldita inercia, joder, maldigo a todo el que comercia con el tiempo ajeno y venda a su madre si se tercia por tener el monedero lleno. Que despreciar el sentimiento porque no es rentable no demuestra inteligencia. Las grúas plagan el paisaje, vampiros con traje, se quedan con la caja en este largometraje. Yo propongo subversión, tesón, coraje, propongo mental reciclaje, propongo ponerse las pilas para petar este putrido paraje que no admite bricolaje. Propongo espíritu salvaje, con esmero preparamos los martillos para romper el engranaje que a través de los bolsillos logra total vasallaje. La vida de rodillas, postrada ante un imbécil que echa cuentas y no sabe nada.
No sabe nada, no. no, que va, no sabe nada, no, no, que va,
Maintenant, voici un interview de deux compagnons de Barcelone qui ont participé à l'occupation de la place Catalunya.
Pour expliquer le contexte social, économique ici, l'offensive capitaliste qu'ils nomment un peu la crise, il y a des difficultés pour la survie, il y a des difficultés, de peur, et de beaucoup des expulsions des locations, je sais pas, de chômage, de réformes, de travail, que c'était lié à la grève générale de septembre, de retraite aussi, plein de trucs que font qu'il y a une rage. D'un côté, permet d'expliquer un peu la sortie massive de gens dans les rues, et puis la réponse à cette espèce d'effet appel qui ont fait les places, parce que c'est vrai, un peu toutes les limites internes qui ont existé du côté des mouvements de 15 mai, de citoyennisme, démocratisme, etc., de passif de toute la campagne de communication qui a pris 5 mois sur Internet avant de lancer la manif. Donc la manif était lancée depuis 5 mois.
Parce qu'on m'avait dit que le 15 mai, ça avait commencé un peu de manière spontanée dans toutes les villes. Et c'est le cas, ça a été spontané, mais ou comme tu le dis là, ça a été programmé avant.
Mais tu vois que le 15 mai, en fait, c'est le dimanche, c'est une manif, c'est le truc que je te dis qui a été lancé avec 5 mois d'avance.
Ouais.
Ça, c'est des trucs qui s'appellent démocratie réelle déjà. Il y a eu une manif à 40 villes. Le dimanche. Et après la manif, il y a plein de villes, c'était merde, manif, il n'y a rien qui s'est passé, on rentre. Certaines personnes ont dit on reste sur la place. Ils sont restés sur la place. Le vendredi, il y avait déjà plusieurs villes qui campaient dans de places de centre-ville. Et aussi, qu'il y a vraiment une situation crispée, une situation difficile. Au niveau social, une espèce de on en a marre, c'est un peu une espèce de sensibilité partagée qui sortait dans les rues.
En fait, c'est que de quelle manière en fait on peut participer ou pas dans cet processus. Grosso modo, en fait, comme anarchiste, avec notre propagande et notre contenu, disons, dans la place, et d'un côté il y avait des anarchistes qui se considéraient en fait qu'on pouvait pas en fait participer comme spectateur, sinon qu'il fallait aussi mettre dans les commissions pour je sais pas, pour faire partie aussi du procès d'un côté. Après il y a aussi là qu'il fallait participer dans le mouvement 15 mai, place Catalunya, etc. Et moi je fais partie de, je sais pas, moi et mon compagnon fait partie de ceux qui ont participé dans les processus. Et en fait, ça qui a agglutiné la plupart de la place à Catalunya, c'était le rendez-vous de tout, c'était la question personne ne nous représente, en fait, dans le contexte une semaine avant de les élections municipales en Espagne, et des communautés autonomes, et l'horizontalité et l'autogestion, en fait, non. Et après, c'était marqué aussi pour un caractère super pacifiste.
Je pense qu'il y a un truc sur ce mouvement du 15 mai, que c'est vraiment un peu une stratégie pour se comprendre, ou dire un négriste. Ils ont repris l'initiative avec cette campagne de tomar la calle, non, de prendre les rues. C'est un peu une structure qui essaye de faire un peu comme le désobéissant en Italie. Non, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils font par exemple ici, c'est une stratégie d'intervention politique, que ça commence avec une maîtrise de communication, des moyens de communication, mais pas les médias si tu veux, mais ici ça a fonctionné sur Internet. C'est-à-dire deux phrases qui sont très, si tu veux, révolutionnaires, hein, prendre les rues, hein, de phrases un peu, tu vois, comme ça, mais liées à un contenu pratique, un contenu de confrontation minimale, et avec un discours très proche de le réformisme le plus, c'est-à-dire changer les lois de représentation, de les lois électorales, enfin, des trucs vraiment très réformistes. Il y a un effet clair que c'est que ces mouvements faits de courroies de transmission de ce qui sont les partis de gauche dans la politique classique, parce que tu vois le pacifisme avec une grande mobilisation. Mais qui, s'il y a rien qui se passe dans le réel, ça a un autre effet que de courroie de transmission de parti de gauche. Je pense qu'il y a une maîtrise de tout cet espace de l'internet, quoi. Et ça a circulé beaucoup. Il y a plein de gens qui ont parlé pendant deux mois. Mais cette même stratégie, je pense qu'elle a été débordée par le fait de pratiques et des trucs qui étaient dans les têtes des gens et qui débordaient ça. Je voulais dire de remarquer un autre moment qui c'était le vendredi 27 juin et la police est arrivée à 10 ans qui voulait nettoyer la place. Et les gens ont résisté, il y a eu un appel et puis ça a été pendant 6 heures et ils ont pas arrivé à expulser des gens de la place Catalogna, mais il y a eu de charges de flics, de plein de, il y a eu 5 blessés, mais les gens ont résisté pendant 6 heures, et il y a eu des centaines de personnes qui arrivaient, puis après enfin nous avons arrivé à reprendre la place, donc déborder les flics qui se sont rendus par petits groupes qui sont sortis en courant, les gens les ont poursuivis. Et là, il y a eu un moment de puissance.
Est-ce que le fait qu'il n'y ait plus cette occupation de place et que ça soit passé à des assemblées de quartier, etc., ça a permis d'avoir des actions plus offensives et un discours qui sorte un peu de la non-violence, du démocratisme, etc.?
La nouvelle modalité qu'il prend, le mouvement, c'est un peu plus intéressant parce que elle fait partie d'une réalité concrète, que c'est la réalité du quartier avec ses visions, ses exigences et ses rythmes, quoi.
Il y a eu une multiplication de ces assemblées locales, pas seulement à Barcelone. À Barcelone, il y avait 13 comités, au moins comités de quartier qui savaient constituer certains quartiers. Il existait auparavant des assemblées des quartiers, mais deux ou trois. Et là, il y en a eu 13 ou 14 comités de quartier qui fonctionnaient, qui se coordonnaient depuis septembre. Et là, après le mouvement du 15 mai, il y en a 23 à la ville de Barcelone. Puis après, il y a une centaine de villages en Catalogne où il y a eu soit de places avec de campements, soit de assemblées locales.
Ils sont organisés, ils continuent à s'organiser et ils ont créé un réseau en fait pour arrêter les expulsions. Non, la plupart du monde disait non, nous on a notre propre rythme et on est en train de construire, je sais pas, de faire notre politique dans la roue et tout. On ne peut pas, je sais pas, lancer quatre revendications parce qu'on ne peut pas parler avec le pouvoir, etc. Non, mais c'était voilà de trouver des complices et qu'ils disaient bon, le pouvoir c'est pas notre interlocuteur, il faut que nous on récupère notre vie et certaines valeurs qu'ils ont à avoir, et voilà une éthique que nous, je sais pas, on continue à revendiquer, non, c'est l'autorisation, le support mutuel, la solidarité, la compréhension de notre vie. Si toutes les assemblées en fait des quartiers, comités des quartiers, en fait ils fonctionnent de manière autonome et ils se coordonnent des fois et ils se trouvent dans des réunions plus larges, mais pour pas prendre des décisions, sinon pour essayer de coordonner soit des actions, soit des expulsions, etc. Mais pas comme un organe au-delà du, c'est pas un organe souverain au-delà du même comité. Ils se coordonnent, mais c'est ton assemblée qui prend des décisions, en fait. Et ça, c'est un des trucs plus positifs qui est sorti, en fait, au final de ce mouvement. C'est l'organisation coordonnée d'arrêter les expulsions, en fait. Et à partir, en fait, cette coordination, en fait, il a équiparé l'expulsion des maisons squattées, occupées, c'est-à-dire a priori, pour une décision de papayer, et aussi tous les trucs des hypothèques. On voit pas ça comme la panacée, je sais pas, de la lutte, je sais pas, ou la de perspective révolutionnaire, parce que le Cantonais, il a rien de révolutionnaire en soi, non, c'est juste que les manières qu'il a pris maintenant, ça se verra aussi sur chaque quartier, mais la question c'est qu'il commence déjà à parler sur une grève générale, et ça c'est, pour moi, c'est l'espace, le moment pour se trouver avec d'autres, comme d'hab, pour essayer d'agudiser la guerre sociale. Quand on prend la roue, il y a une méthodologie qui commence à être plus présente. Parce que Barcelone, citoyennisme, tout ça, il a fait beaucoup de mal. Donc c'est Barcelone, c'est un contexte super pacifié. Et c'est vrai que ça fait un an, et comme ça, il commence à avoir l'État espagnol, il est à bord de collapse financier. Et je sais pas, nous, on a un œil toujours au beurre et la graisse. Parce que bon, voilà, je ne sais pas si on va arriver au même niveau d'agitation, non, des révoltes. Et la question qui ça continue à se parler et que ça existe un peu dans l'air d'une prochaine grève générale, non, que ça veut dire aussi sortir aussi de la place et reprendre aussi dans la roue, mais dans un contexte plus...
Toute cette année qu'on en discute, on essaye de mettre, mais on n'arrivait pas. C'était les trucs de essayer de penser une forme de grève, de prendre l'initiative au grand central syndical, d'ouvrir une espèce de maison de la grève, un lieu pour s'organiser. En septembre, on est arrivé avec la banque occupée à Place Catalogne même pendant 5 jours à déborder la grève générale. Et au mois de janvier, il y a eu un essai, une maison de la grève. Comme a été fait en France pendant la grève de retraite, et pour essayer de s'organiser, pour avoir quelques jours, pour lancer un appel aussi avec ce mot d'ordre qui en France a apparu, c'est tout de bloquer l'économie et essayer de penser comment on peut penser une espèce de grève, des grèves sociales, de grèves portées par le l'assemblée locale. De travailleurs dans des boîtes et c'est penser un peu de ces côtés-là.
Et pour finir, on voulait aussi interviewer un ami qui est professeur à l'Université de Barcelone pour voir de quelle manière il percevait ce mouvement auquel il a aussi participé.
Donc, bonjour Santi.
Bonjour.
Pour commencer, on voulait savoir comment avaient débuté les occupations de place à Barcelone. Toi, tu es sur Barcelone.
Plus qu'occupation de place, on parlait ici de la prise des places publiques. Donc, la prise des places publiques a commencé d'une façon très inespérée. Non, parce que, au moins à Barcelone, il y a eu un appel à aller au centre de la ville, à la place centrale de la ville, pour dormir. Et la façon dont s'est fait cet appel a été très, très étrange. Non, parce que moi, ce que j'ai vu à l'université, j'ai vu un petit écrit sur le mur où on disait aujourd'hui, il faut aller à la place centrale de Barcelone à dormir pour lutter contre la démocratie fausse qu'on a et contre la crise et la précarisation de la vie. Cet appel n'avait aucune force en principe, non, parce que c'était un peu fou, non, comme ça, parce que l'appel a demandé d'assister à cette occupation d'une façon indéfinie, indéterminée. Et malgré tout, j'ai vu que quelques étudiants qui venaient avec un sac à dormir et qui allaient à la place. Et cette nuit, au moins à Barcelone, il y avait 60 personnes. 60 personnes qui se connaissaient et qui disaient à 12h à la nuit, qu'est-ce que nous faisons, nous restons ici ou nous marchons. Mais on a resté.
Ça, c'était sans appel de partis politiques ou de syndicats ou...
Exactement, parce que aucun parti politique était derrière. À Madrid, il y avait non des partis politiques classiques, mais un réseau social, démocrate et réalien. Il y avait plus d'institutions non politiques au sens traditionnel qui avaient fait l'appel. Non. Ici, aussi, la semaine avant, il y avait eu une manifestation démocrate et réalien. Mais nous avons assisté à cette manifestation et cette nuit-même-là, nous ne savions pas qui était Democracia Realia. Nous ne savions pas. Mais malgré ça, on avait l'idée qu'on assistait à un mouvement qui n'était pas un mouvement prévisible ni contrôlé. Cette nuit, on restait 60 personnes. Et le lendemain, la concentration a augmenté et comme ça chaque jour. Et peu à peu, l'espace du centre de la ville a commencé à s'auto-organiser. Il y avait beaucoup de gens, des maisons occupées, des centres sociaux. 5 jours après, c'était complètement débordé. Non, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de gens. Et ça, c'est ce qui m'intéresse plus de dire. Non, parce que les gens qui venaient n'étaient pas... Ne venez pas comme travailleurs, ne venez pas comme citoyens, venez comme des gens qui disaient « cela suffit ». C'était le cri « cela suffit ». Pour moi, c'est ce que les gauchistes, par exemple, n'ont pas compris. Parce que c'était un mouvement d'une complexité incroyable. Non. C'était comme une nouvelle politisation qui passait pas par les chemins traditionnels. C'est difficile à expliquer. Et je l'ai fait avec des amis italiens qui ne comprenaient pas. Non, par exemple, un jour, je suis allé à la place Catalogne, 10 jours après. Non, et à 3 heures, à l'après-midi, avec un soleil incroyablement fort, il y avait une assemblée de 300 personnes qui parlaient sur les maladies. Et les personnes qui parlaient étaient des handicapés, des bipolaires, des fous. Et c'était l'assemblée du mouvement. On parlait, par exemple, à un homme qui était sur une chaise parce qu'il était paralytique. Et une semaine après, la police cognerait contre lui. Il disait « Vivre pour moi est une victoire ». Et cette assemblée était l'assemblée de la place Catalogne. Et c'est pour ça que c'est vraiment très difficile de reconduire dans un schéma politique traditionnel. Non. Et surtout la force de l'assemblée de la nuit, non, qui était jusqu'à 12 heures, beaucoup de jours, non, avec 2000, 3000 personnes. Et ça fonctionnait comme assemblée. Ça fonctionnait.
D'accord. Donc au début, ça a démarré à 60. Et après, l'occupation, ça allait jusqu'à 1000, 2000, 3000 personnes.
Oui, oui. Les gens qui restaient dormir, on pourrait à Barcelone, on dirait 300, peut-être 400 quelquefois. Mais l'assemblée de la nuit, 2000, quelquefois 1000, 3000, et il y avait comme une organisation qui faisait possible que les gens s'exprimaient. Et les premières semaines, c'était vraiment la haine, le désespoir, l'espérance qui prenait la parole. Nous disions beaucoup cette chose. Donc, prendre la place publique était prendre la parole. Et c'est pour cela que quelques amis qui avaient été en mai 68 disaient qu'il y avait une ressemblance. Non. Moi, je ne dirais pas exactement ça, parce qu'il y avait beaucoup de mots d'ordre, un peu moins 68, et il y avait aussi un pragmatisme. Non. Ce que je dirais, c'est que tout le mouvement, sa force était de se concrétiser dans un geste radical, non, prendre la place, cela suffit, nous voulons pas qu'on nous représente. Et ça d'une façon absolument radicale, et sans discours. Et c'est ce que les journalistes, les politiciens ne pouvaient pas supporter. Ils disaient, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Et les gens disaient, nous ne sommes pas pressés, nous voulons pas nous définir. Mm-hmm. Et tendance ouverte, non, parce qu'elle n'était pas fermée, disait il faut donner du contenu, il faut donner des alternatives. Et beaucoup de gens disaient non, non, l'alternative, c'est nous dans le, sur les rues. Et bon, c'est tout. Et quand nous sommes allés au Parlement, parce qu'à Barcelone, non, pour éviter que les parlementaires se retrouvent et signent toutes les mesures sur la crise, non, d'attaque au salaire, aux conditions de la vie, de la maison, non, tout cela. Quand les portes du Parlement ont été bloquées avec des lits, avec tout ce qu'on a trouvé sur la rue, c'était un saut qui se tournait, non, parce que il y avait des gens qui disaient non, il faut rester sur les places, parce que cela est l'objet. D'autres que nous défendions, non, il faut déborder les places. Il faut s'infiltrer sur le territoire. Et cette politisation qui a commencé ici, et qui est une politisation de l'existence, de la vie, qui n'a aucune identification, parce que nous ne sommes pas les travailleurs, les citoyens, nous sommes des gens qui n'en avons marre. Nous voulions que cette politisation s'infiltre sur les territoires. Et un peu c'est ce qu'on a fait, non ? C'est un peu ce qu'on a fait en ouvrant une constitution, en constituant des assemblées sur les différents quartiers de Barcelone, mais connectées avec un centre.
En fait, ce qui s'est passé, c'est un moment quand il y a ces parlementaires qui devaient parler des ce qu'ils appellent les mesures d'austérité.
Exactement.
À ce moment-là, il y a eu un encerclement autour du Parlement pour les empêcher d'entrer, c'est ça ?
Toute la nuit, ont dormi sur la rue et très tôt un millier de personnes ont fait impossible l'arrivée des voitures officielles et une parlementaire qui était la chef de la police on a dessiné une croix sur son manteau.
D'accord.
Mais le résultat a été que les parlementaires, surtout le président, a dû prendre un hélicoptère pour arriver au Parlement. Et aussi un autre qui est le chef de la police, et comme ça. Non, et alors a commencé une campagne sur la presse, la télévision, une très forte attaque contre le mouvement du 15e, en disant que à la fin on voyait la véritable phase de ce mouvement, qui disait que c'était un mouvement pacifiste, mais que c'était un mouvement violent qui osait attaquer les représentants du peuple, non.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después.
La presse et les politiciens ont beaucoup utilisé le thème de la violence un peu pour cristalliser.
La violence qui était être debout en bloquant les portes, on n'a fait rien de plus, non. C'est quelque chose de très intéressant d'analyser, non, parce que cette attaque, appuyé par certains secteurs du mouvement, surtout de Madrid, qui disaient « nous n'avons rien à voir avec la violence », comme ça, cette attaque a été complètement neutralisée. Et quelques jours après, la manifestation qui a eu lieu à Barcelone a été 300 000 personnes.
300 000 personnes ?
Oui, 300 000 personnes contre la crise.
Ah, c'est énorme.
Et cette manifestation a été possible malgré toute cette attaque absolument terrorifique, non ? Et malgré ça, la manifestation, plus de 300 000 personnes. C'est incroyable, aucun parti politique, aucun drapeau. Parce que ça, c'est aussi très intéressant. Il n'y a aucun drapeau, aucun parti politique peut dire que celui-là, celui appartient, etc. Non.
Barcelone, c'est combien d'habitants à peu près ?
Je crois...
C'est 2 millions, non ? Quelque chose ?
Oui, 2 millions. Ah, ouais. C'est la plus grande. Et après cette manifestation, les politiciens, le pouvoir, a dû changer à nouveau. Et dire non, non, ils sont des bons garçons, ils ne sont pas violents. Parce que c'est suivre l'évolution de la relation du pouvoir, de la presse avec le mouvement, c'est très, très amusant. Parce qu'au commencement, la droite voulait faire sienne ce mouvement. Contre les socialistes, ils ne sont pas réussi parce que c'était personne ne représente ni droite ni gauche ni rien, ni aucun politicien. Ils n'ont pas réussi à récupérer le mouvement. Et maintenant, c'est l'ancienne gauche communiste qui essaie de faire des ponts avec le mouvement. Non. Mais c'est difficile parce que il y a des secteurs qui veulent rien savoir avec la politique, avec la politique classique. Donc, je ne sais pas ce qui arrivera. Non. En tout cas, l'excité de ce mouvement est très grande parce qu'il y a de l'espérance, disons, non, mais aussi du désespoir pour n'avoir aucun futur. Il n'y a pas une identité claire. C'est aussi ce qui fait difficile avancer, non? Parce qu'il y a, en un sens, il y a un déficit de politique qui fait très difficile prendre des décisions. Mais aussi, en quelques moments, c'est aussi positif, pas prendre des décisions, non?
Une des choses qui nous paraissait intéressante, c'était ce qui se passait dans les assemblées et comment des assemblées de 2-3 000 personnes pouvaient fonctionner. Il y avait des systèmes de commissions, comment ça se passait ?
Oui, les assemblées fonctionnaient parce qu'il y avait des copains qui savaient très bien porter en un bon sens. C'est-à-dire, on a inventé des signes pour faire plus rapide par exemple, les gens qui voulaient parler devaient parler 5 minutes, par exemple, s'il y avait quelqu'un qui n'était pas d'accord, pouvait faire un signe. S'il y avait 20 personnes qui n'étaient pas d'accord, alors on prenait ce point de désaccord pour après le parler. Il y avait toute une méthodologie très intéressante, qui faisait possible l'Assemblée. À côté de cette méthodologie, il y avait les commissions, non, qui devaient organiser, par exemple, il y avait une commission de relations avec la presse, une commission de contenu. Mais c'est très difficile de gestionner un mouvement comme celui-là, parce que c'est un mouvement qui n'a pas, disons, un intérêt objectif de classe, non, comme l'ancien mouvement ouvrier, non. Et alors, il y a des intérêts très divers, non, absolument divers, non. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils défendent une position écologiste, il y a des autres qui sont là parce qu'ils sont désespérés, il y a des autres qui sont là parce que c'est joli être là avec des autres, Et alors cette complexité, j'estimais cette complexité, on l'a fait un peu avec les commissions, les différentes commissions, non? Mais ce qui est arrivé, et moi je le vis de près, non, c'est que travers cette diversification de commissions, on perd un peu le problème central, non? Par exemple, la commission d'écologie, non? Il faudrait une bonne relation avec le monde, avec la nature. Et disons, quand on commence à penser en positif, c'est très compliqué. Il faut commencer à penser en positif, parce que beaucoup de gens dans l'Assemblée voulaient penser en positif. Mais penser en positif, une autre démocratie, une autre économie, une autre société, penser en positif, c'est compliqué, non? Parce que c'est très facilement reconduit. Mais beaucoup de gens voulaient le faire. Dans l'Assemblée, de 1000 personnes voulaient le faire. Et c'est bien, d'une certaine façon. Hein, à partir de cette idée, personne ne représente. Nous prenons la parole. Nous voulons crier. Aujourd'hui commence une révolution. Non? Et l'idée même de révolution doit être pensée à nouveau. Non? Il y avait des gauchistes qui disaient... Ce n'est pas radical ce qui se pose là. Mais cela suffit. Personne ne nous représente. Et dit ça, c'est difficile à comprendre. C'est différent Madrid, c'est différent Barcelone, c'est différent Palma, Granada. Chaque ville est un peu différente de ce qui s'est passé. Non?
C'était pas un mouvement qui était sur la même ligne ou c'était pas. Chaque ville avait ses particularités.
Oui, non, mais la même ligne était contre les politiciens. Oui, c'est comme une antenne contre les politiciens, contre cette économie, contre ce système. Non, un peu comme ça. Mais il y avait, parce que c'est aussi vrai, non, il y avait les gens des démocrates et Realia qui sont très peu à Barcelone, sont inexistants, mais qui ont une relation à la presse plus forte, plus facile, qui essayait de reconduire un peu tout ça, en posant, par exemple, une réforme de la loi électorale. Et beaucoup de gens étaient d'accord. Donc, et une des questions centrales, c'est la question de la violence, qui se posera bientôt. Ce qui est plus intéressant de ce mouvement, c'est qu'on a traversé l'impuissance. Non, à Barcelone, surtout en Espagne, il y avait une impuissance généralisée. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Dans les hôpitaux, dans les écoles, le monde ordre capitaliste, on ne peut rien faire. Non. Tout à coup, on a commencé à traverser cette nuit de l'impuissance. Non. Cette nuit s'est traversée d'une façon absolument étendue. Non. Partout ont surgi des résistances. Par exemple, quand des gens qui doivent être expulsés de sa maison parce qu'ils ne peuvent pas payer l'hypothèque, on dit comme ça.
Oui, l'hypothèque. Ouais.
Maintenant, on se retrouve des centaines de gens qui ont évité que la police expulse
Il y a un réseau qui se constitue avec des résistances.
Exactement. C'est comme si on avait vécu une espèce de parenthèse en certaines manières. Le pouvoir n'osait pas attaquer un mouvement si grand. Seulement au centre de Barcelone l'a fait. Non? Et le résultat en était très mauvais pour eux. Et maintenant, ils commencent à l'attaquer. Parce que jusqu'à présent, on pouvait éviter que les gens soient déménagés de sa maison.
Soient expulsés.
Mais la semaine dernière, à Madrid et à Barcelone...
Par la force, ils ont réussi avec les expulsions.
Exactement. Je crois que, par exemple, ma soeur, qui n'était pas politisée, a travaillé dans la cuisine de la place Catalogne, qui alimentait plus de 1000 personnes. Ça allait aussi éviter l'expulsion des voisins. Et tout à coup, elle a vu la police armée, comme ça, et elle n'a pas compris. Elle me disait, et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Et je lui ai dit, mais c'est toujours comme ça. Ça a été une parenthèse. On a traversé l'impuissance, mais maintenant, l'impasse pose d'une autre façon, beaucoup plus difficile, je crois.
Et donc la question de la violence devra se reposer à un moment ou à un autre.
Bientôt devra être posée. Alors, je ne sais pas ce qui se passerait. Je ne sais pas si je peux dire ça, non, mais je crois qu'il n'y a pas encore trop de désespération. Uh-huh. Il y a quelques moments que, à la place Catalogne, par exemple, non quand la police a attaqué, non, mais quelques moments, c'était si beau, c'était comme une autre société où toutes les personnes étaient aimables, gentilles. C'était très beau, non, 1000 personnes ont plus. Réunis en parlant, en petits groupes. Ça ne peut pas durer quelque chose comme ça, non. Ça ne peut pas durer. Et parce que c'était un mirage, on dit comme ça.
Oui, oui, un mirage.
Mais il faut s'organiser. Et c'est même maintenant le grand défi, c'est maintenir et organiser ce mouvement qui fait de tant de voix différentes et de désirs différents que une nouvelle forme de politisation à unifier. C'est très important aussi. Non la malaise, non le malestar.
Le mal-être, oui.
A été unifié par cette nouvelle forme de politisation qui est une politisation de l'existence. Mmh. Qui n'est pas une politisation qui est une relation droite-gauche en un sens traditionnel. C'est le défi, c'est l'organisation maintenant.
Mmh. Et justement, par rapport à ça, qu'apparemment, de la place Catalogne, les gens se sont plus déplacés maintenant sur les assemblées de quartier.
C'est exactement. C'est maintenant c'est ce qui a commencé, nous. Et il y a des assemblées de 200, 300 personnes, ça dépend dans les différents quartiers.
Mm-hmm.
Et on essaie, il y a une coordination, et les assemblées sont connectées avec les hôpitaux qui sont maintenant très attaqués par cette politique d'austérité. Mais maintenant, c'est l'été, et on ne sait pas ce qui arrivera. Mais en tout cas, ce qui est certain, et c'est peut-être maintenant je finis, c'est que beaucoup de milliers de buis ont été bouleversés. On était bouleversés, on n'osait pas entre la rue.
Mm-hmm.
Selon, il y avait beaucoup d'années qu'on avait pris. On pouvait pas prendre la rue.
Mm-hmm.
Et maintenant, milliers de buis on osait le prendre la rue.
Mm-hmm.
Et je crois que les choses ne seront pas comme avant. Ce n'est pas ce qui arrivera, mais on a fait un pas en avant, un pas collectif en avant.
Mmh. Pour terminer l'émission, c'est très bien comme ça.
Bon, oui.
Tu voulais ajouter encore quelque chose ou...
Cette idée de politisation nouvelle, non ?
Mmh.
On l'a pensé à nouveau. Parce que c'est une politisation qui n'a rien à voir avec l'identité. Et par exemple, aussi en Espagne, qui pendant tant d'années, la question nationale qui était au centre, non ?
Mm-hmm.
Et tout à coup, la question nationale s'est posée d'une autre façon, non ? Madrid a appuyé Barcelone, Barcelone a appuyé Madrid, etc. Je vous dis qu'il y a un nouveau scénario qui s'ouvre.
Mm.
Et dans ce nouveau scénario, pour les gens ont pris la parole. C'est une bonne fin, non ?
C'est très bien. Bon, eh bien merci Santi, merci aussi aux deux autres camarades de Barcelone et à Pablo de Séville. Bonne soirée à tous, bonne soirée à toutes et à la semaine prochaine. Ciao !